Bonjour à tous. Bienvenue sur Séoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Clément, bienvenue sur Séoul Connect.
Bonjour Marthe.
Écoute, merci de m'avoir contacté, donc de t'être proposé pour participer à un épisode. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, que tu te présentes rapidement en deux, trois phrases sur qui tu es et ce que tu fais actuellement en Corée.
Bah écoute, moi je travaille chez Royal Canin, groupe Mars. Donc c'est un producteur de pet food pour chiens et chats. Et j'assure la fonction de Regional Development Supply Chain pour la région, donc pour la région Asie-Pacifique. Et mon rôle est en fait de s'assurer que la partie supply, donc production, puisse délivrer en temps et en heure tous nos clients en Asie-Pacifique, et notamment en Corée, puisque la Corée est devenue une plateforme régionale pour l'Asie, puisqu'on a une usine qui a été inaugurée il y a 2 ans. Et cette usine, elle est un peu spécifique parce que c'est une des rares usines qu'on a dans le monde qui est capable de délivrer plusieurs pays dans notre réseau.
Donc, d'accord. Marché... Alors, Royal Canin, c'est pas banal. Hein. J'en parlais avec quelqu'un qui me demandait qui était mon prochain invité et qui disait, ah oui, tiens, ça, c'est pas banal parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens de la tech, finalement. Mmh. Beaucoup de gens de la tech, beaucoup de gens des parfums, des luxe, de l'hospitality, enfin, les secteurs traditionnels. Donc là, c'est vrai que c'est un secteur un peu plus original. Ça sonne très français, d'ailleurs, Royal Canin. Au départ, c'était français racheté par Mars ou ça a toujours été américain?
Ça vient du sud de la France, d'Aimargues, à côté de Montpellier, pour être plus précis. Et c'est, oui, c'est une marque qui est historique française et qui s'est très bien développée, qui a toujours axé sa production sur chien et chat d'abord, mais vraiment produire un produit pour le chien et non pas pour le propriétaire du chien, entre guillemets. Et c'est comme ça que ça fait son succès. Et ça marche très bien dans le monde. C'est devenu une des marques références de Mars, puisque Mars, on connaît Mars pour le M&M's, pour le Twix.
Oui, les choses sucrées, quoi. Ouais, ouais.
Exactement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Mars a aussi une grosse division qui est pet food, avec plein de marques. Et Royal Canin est devenu un peu la petite pépite de Mars. C'est la marque, une des marques qui marche le mieux du groupe. Et donc voilà, le pet food, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour le groupe Mars.
Intéressant. Et comment on dit alors Royal Canin?
On le dit à la française, puisque on dit Royal Canin, parce que ça vient de France et que d'une part, tout ce qui est la carte Made in France a toujours eu une bonne connotation pour les clients. Et d'ailleurs, quand on a délocalisé, quand on a commencé à devoir fournir beaucoup de clients en Asie, on a dû construire des usines en Chine, en Russie et en Corée plus récemment. Et le plus problème qu'on a à chaque fois, c'est effectivement, il faut expliquer aux clients, vous n'allez plus recevoir des croquettes de France, mais les croquettes vont être produites de Corée. Et ça a toujours fait un peu grincer des dents, ironiquement.
D'accord. Oui, et puis ça doit être prononcé comme Louis Vuitton, avec tout un tas de différents accents possibles et inimaginables, j'imagine, Royal Canin. D'accord, mais donc toi, tu le dis à la française, je travaille, I work for Royal Canin.
Après, effectivement, nos interlocuteurs ne comprennent pas tout le temps, donc effectivement, il faut toujours le prononcer avec l'accent local.
D'accord. Et donc, tu dis pet food, donc on connaît bien les chiens, effectivement, avec des publicités historiques, en tout cas, peut-être pour les plus âgés, en tout cas. Donc, tu dis c'est des chats aussi, et quels autres animaux?
Alors, les canins, donc c'est que chiens et chats, avec deux types de produits. On va avoir ce qu'on appelle le dry, donc c'est-à-dire des croquettes qui sont, qui sont en sac, et le wet, donc le mouillé, donc ce qui va être plutôt en canette. Donc ça, c'est des usines qui sont indépendantes. On a des usines qui sont dry et des usines qui sont wet. Celle de Corée, en l'occurrence, c'est dry.
Celle de Corée, c'est dry. C'est où en Corée?
C'est à Gimje, donc c'est à côté de Iksan, c'est très loin. de Séoul. Et c'est une usine qui a ouvert il y a 2 ans. Et c'est une très belle usine. C'est une usine qui va produire beaucoup, beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'ambition pour ce hub. Et ironiquement, le fait que justement que ce soit un peu en campagne à côté de Iksan. Donc, Iksan, c'est à côté de Jeonju, pour être plus précis, pour ceux qui connaissent la Corée. Et une ironiquement, donc en termes de setup pour une usine en campagne, c'est beaucoup plus simple plutôt qu'au centre de Séoul, forcément.
Oui, et moins cher.
Exactement. Et on a aussi beaucoup l'État aussi qui a beaucoup aidé. Le gouvernement coréen a fait beaucoup de sponsors pour avoir cette usine à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que la Corée, Séoul, s'est très bien développé, mais la campagne, la province, ça a toujours été un peu compliqué d'amener de la valeur, amener des usines, amener de l'emploi aussi en campagne. Donc ça, c'était très bien d'avoir le sponsor du gouvernement. Par contre, d'un point de vue HR, toujours un peu de challenge d'attirer les talents, d'attirer même coréens, en fait, hein, même des spécialistes, des ingénieurs coréens à venir travailler loin de Séoul. Ça a toujours été un challenge.
Oui, bien sûr, parce que la moitié d'entre eux habitent autour de Séoul. On est à combien de kilomètres de Séoul ?
On est grosso modo, je pense qu'on marche, je ne sais pas, peut-être 200 kilomètres, c'est 1h30 de KTX, donc de TGV.
Oui, donc c'est en plein centre du pays, c'est ça ? Donc, donc pour la moitié des Coréens, ce n'est pas, évident. Pour l'autre moitié qui habite à Busan non plus. Donc, effectivement, il ne reste pas grand. Mais toi, tu ne travailles pas là-bas. Vous avez aussi des bureaux à Séoul, non ?
Exactement. Donc, on a nos head office qui sont à Séoul. Moi, je vais de temps en temps à l'usine, parce que c'est quand même un bel outil dont on est très fiers. Mais moi, oui, je suis, à vrai dire, rattaché au regional office. Alors, ce qui est marrant avec Mars et Royal Canin, c'est comme on est assez dispatché partout dans la région, on n'a pas de regional office très... Ce n'est pas comme la tech ou certaines entreprises où on a à Singapour un beau building sur 4 étages, tous les bureaux. Nous, on est un peu dispatché aux 4 coins de l'Asie. Et on m'avait donné d'ailleurs l'opportunité de soit venir à Shanghai, soit venir en Corée. Et en fait, ceci est mon deuxième job en Corée. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas revenir en Corée.
D'accord. Et donc, ton rôle concrètement, ça consiste en quoi ?
Mon rôle, c'est d'assurer, d'être sûr qu'on est capable de délivrer les produits à nos clients dans la bonne quantité, en temps, en heure, et avoir un service client au top, sachant qu'on est dans un réseau qui est extrêmement complexe. On a le coronavirus, on a une croissance de plus de 20%, enfin, ça dépend des pays, mais on a une grosse croissance dans la région. Donc ça augmente vite. On a des ennuis géopolitiques. Certains pays ont des import bans. Donc le réseau est compliqué. Et donc le challenge, c'est d'arriver à livrer en temps et en heure tous nos clients aux 4 coins de l'Asie.
D'accord. L'Asie pour vous, c'est parce qu'on sait que l'Asie, ça a toujours des géométries un peu variables. Ça représente quoi pour vous l'Asie ?
C'est la Russie, c'est la Chine, c'est Hong Kong, Taïwan, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est le Japon et c'est la Corée. C'est ça l'Asie pour Royal Canin.
D'accord, donc très, 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 très est. Pas l'Asie du Sud-Est, pas l'Asie du Sud type Inde et pas le Moyen-Orient. Ouais, d'accord. Mais ce qui représente déjà effectivement beaucoup de pays et sans doute beaucoup de canins aussi. Mais concrètement, parce que c'est pour essayer de comprendre, parce qu'effectivement, c'est un univers qui est très différent de ce que j'ai pu connaître, tu as des commerciaux qui prennent des commandes et derrière, tu as des usines qui produisent et qui livrent les commandes, qui en général sont en retard et les commerciaux préviennent les clients que de toute façon, il y aura un retard de commandes. Ça, c'est le schéma classique. Toi, comment est-ce que tu interviens dans ce schéma-là ?
Eh bien, en fait, le schéma, c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand on dit supply chain, nous, notre objectif, c'est de prendre une carte finalement et de voir où sont l'usine, où sont les clients. Donc, on dit concrètement, on dit que notre usine principale est en France. On a des usines secondaires qui sont en Chine, en Russie, en Corée et on a des clients un peu partout. Et l'idée, c'est pour la Corée, finalement, la Corée, typiquement, elle reçoit 50% de la production de France, 50% de la production de Corée, si je schématise. L'idée, c'est de dire quelles références on produit en Corée, quelles références on produit en France, comment on fait. Il y a quand même 3 mois de délai entre la France et la Corée. Qu'est-ce qu'on va mettre en stock, comment on s'assure que nos forecasts sont corrects, comment on est capable en fait, de s'assurer que chaque client, chaque propriétaire de chien et chat puisse aller à son magasin, à son vétérinaire, à son shop, pet shop, et va trouver le produit qu'il veut sans qu'il y ait rupture de stock dans un monde qui est extrêmement tendu avec le coronavirus. Hein.
Oui. On le voit très bien. D'accord, oui. Non, moi, je pensais que vous aviez déjà délocalisé et que tout ce qui était vendu en Asie était plus ou moins produit en Asie, en fait.
En fait, non. On a encore beaucoup de production qui vient d'Europe. Hein. Donc, typiquement, tout le wet vient d'Europe. Il y a zéro wet en Asie. Donc, tout ce qui est sous canette, si vous voyez des canettes en Asie, ça n'a pas été produit en Asie, ça a été produit en Europe. Et en fait, on fonctionne par référence. On fonctionne par référence. Donc, chaque type de chien a ses croquettes. Donc, voilà, les petits chiens qu'on trouve dans le parc de Séoul qui sont dans les poussettes, ils ne mangent pas les mêmes croquettes que, on va dire, le berger allemand à Berlin. Quoi.
Oui, forcément.
Voilà, on essaie d'orienter un peu la production en fonction aussi des types de chiens qu'on a en Asie.
D'accord, mais il n'y a pas eu de délocalisation ou en tout cas de partage des unités de production. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait, parce que ça paraît plus cher finalement de produire et de transporter que de créer des usines sur place.
Alors, en fait, il y a plusieurs… c'est vrai que quand la décision de créer une usine, le premier levier, finalement, c'est la demande. On a des marchés qui sont gros, très gros. La Russie, c'est très gros pour Royal Canin. La Chine, c'est très gros. La Corée reste modeste, mais grossit vite. Donc, en fait, tout simplement, il arrive un moment donné où le marché a une taille critique et on peut plus se permettre d'avoir des usines à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est le levier numéro un, en fait, finalement. Ouais. C'est être capable de justement avoir une vue de long terme et pouvoir délivrer les clients sur le long terme. Et en particulier, il y a aussi un autre aspect, c'est aussi l'aspect qualité. Il faut faire très attention quand on délocalise. Finalement, on n'a jamais délocalisé chez Royal Canin. On a toutes les usines historiques qu'on a eues, elles sont toujours en activité et elles continuent à croître, elles continuent à être développées, simplement parce qu'on a un réseau qui continue à se développer également. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Et même créer une usine, c'est aussi un risque qualité, parce qu'on a toujours aussi la peur bleue que quand on crée une usine, le produit qu'on va sortir n'a pas le même goût, n'a pas la même qualité que le produit original en France.
Oui.
Ça a été parce que Royal Canin a un positionnement en luxe et des clients typiquement japonais et également coréens qui sont très 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 pointilleux sur la qualité des produits pour leurs chiens. Extrêmement pointilleux, presque plus pointilleux que ce qu'ils mangent eux-mêmes, j'ai l'impression parfois, vont tout de suite attaquer avec du social network qui vont faire de la mauvaise publicité sur les réseaux sociaux, sur la qualité des croquettes qui ont été produites en Corée. Ah, décidément, ils ont changé, c'est pas la même. Donc c'est très dangereux en fait pour nous, parce que ça va très vite. En
fait. Comment ils font ? Ils les goûtent ? C'est pas possible ? Ils les goûtent eux-mêmes ?
On va revenir là-dessus, mais le marché le plus compliqué pour nous, ça reste le Japon, avec pas très loin derrière la Corée, mais le Japon sont très très pointilleux parce que quand ils donnent à manger à leurs chiens, ils vont prendre des croquettes dans leurs mains et ils vont les inspecter. Certains clients les inspectent une par une. Donc même la forme de la croquette, on a eu des complaints avec des photos de la croquette. Donc voilà, c'est pas la même forme qu'avant, ça allait être triangulaire. Avant c'était rond. Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, vraiment, il y a un quality check qui est fait par nos consommateurs. Donc, il faut faire très attention.
D'accord.
Et parler justement, goûter la croquette, et ben, figure-toi que dans nos usines, pas toutes les, en France ou en Corée, on a tous les jours, on ouvre un sac pour regarder un peu la production de la journée précédente, s'assurer que les croquettes sont en bonne qualité. Et certes, si on a un doute, on peut même goûter la croquette. On n'hésite pas. J'ai déjà mangé une croquette ou plusieurs croquettes.
D'accord. Non, j'aurais pensé que vous aviez un chien de service qui était là et qui l'a mangé.
Il y a un panel. Il y a les chiens, effectivement, qui sont capables d'avoir des tests de goût. Donc ça, c'est en France. Mais en Corée, oui, les croquettes sont parfaitement comestibles parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un bébé qui va avoir la gamelle du chien et manger la croquette du chien, ça arrive.
Oui, 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 il faut que ça soit comestible pour l'homme. D'accord, très bien. Et tu reportes à qui ?
Eh bien, je reporte à une Coréenne. Et, alors ça, c'était assez curieux parce que c'était mon ancienne cliente. Donc elle ne travaillait pas pour Royal Canin auparavant, mais elle avait démissionné de son travail pour rejoindre cette opportunité. Et elle a pris le poste de directrice région supply chain et elle a formé une équipe puisque l'équipe régionale supply chain n'existait pas. Donc, c'était la région qui est en train de boomer. Donc, on était en train de structurer un peu tout cela. Et la regional supply chain directeur a été confiée à une Coréenne, justement. Ce n'est pas commun. Elle a formé son équipe et elle s'est souvenue de moi. J'étais son ancien fournisseur logistique et elle m'a proposé de rejoindre l'équipe et j'ai tout de suite sauté sur cette occasion. C'était parce que Mars est un très beau groupe et Royal Canin est une très belle entreprise. Honnêtement, enfin,
Tu as déjà répondu à ma question suivante, effectivement. Mais alors, juste pour terminer, donc effectivement, elle est basée en Corée ou elle est basée ailleurs?
Elle est basée en Corée, mais encore une fois, c'est pas contraignant. En fait, dans l'autre équipe, dans l'équipe région, on a un Australien, un Brésilien qui est basé en Australie, on a un Français qui était en France qui nous a rejoint en Corée. On a des gens qui sont à la région à Shanghai. Donc finalement, c'est pas géographiquement délimité. Hein. Et encore une fois, si au recrutement on m'avait proposé de rester ils m'ont recruté de Shanghai, ils m'ont proposé de rester à Shanghai. Donc j'aurais très bien pu rester là-bas.
D'accord, l'équipe est vraiment remote au sens où non seulement remote par rapport au bureau, mais aussi géographiquement. Vous pouvez être dans des fuseaux horaires différents. J'imagine qu'il y a quand même, il faut être dans la région que vous couvrez. Hein. C'est ça les pays que tu as cités tout à l'heure.
On est toujours rattaché aux entités locales. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours nos bureaux physiques. J'ai un bureau physique en Corée. Oui. Effectivement, à cause du Covid, on est tous en remote parce qu'on essaie d'éviter les interactions physiques comme recommandé par le gouvernement.
D'accord. Donc, effectivement, la question suivante, c'était comment est-ce qu'on trouve un job chez Royal Canin en Corée? Donc, tu as déjà en partie répondu, tu as été débauché par une cliente.
Alors, ça, justement, il fallait revenir un peu en arrière dans mon historique. Peut-être que je vais peut-être montrer mon parcours et dire comment j'ai réussi à
voir si... Ça marche. À ce moment-là, on reprend carrément du début. Alors, tu viens d'où? D'où viens-tu?
Donc, moi, j'avais fait un master en supply chain en France, donc à l'ESC Rennes, et je n'avais jamais mis un pied en Asie.
Tu es de la région? Tu es de Rennes ou tu es d'où au départ?
Je suis de Chartres, donc à côté de Paris, une heure de Paris, une petite ville qui s'appelle Chartres, et j'avais fait un DUT logistique à Chartres. Et du DUT, je suis passé au master, et le master, une des grandes écoles de supply chain en France, c'était à l'ESC Rennes. Et donc, du coup, j'ai rejoint cette école. Et dans le cursus de cette école, il y avait un programme d'échange avec Taïwan. Et donc, j'avais été intéressé par cela. C'était un programme d'échange de 6 mois. Et j'avais rejoint cette opportunité et qui m'avait beaucoup enchanté. C'était ma première fois que je visitais l'Asie. Et j'en ai profité justement pour voyager un peu autour donc, de Taïwan. J'avais pris mon petit sac. Et entre deux cours, j'étais parti au Japon, j'étais parti au Cambodge, j'étais parti en Corée du Sud également. J'ai visité un peu tout ça. Et j'avais eu...
Pendant ton séjour à Taïwan, tu veux dire?
Pendant mon séjour à Taïwan, j'avais un peu rayonné. Donc, j'avais prévu le coup. Je savais que je n'allais pas être débordé de travail pendant ce programme d'échange. C'est que c'était juste c'était assez informel comme programme d'échange. C'était pas très lourd. C'était seulement 6 mois. Et donc, très honnêtement, ça me donnait la flexibilité de pouvoir découvrir l'Asie. C'était un de mes objectifs que j'ai bien rempli. Donc, j'avais passé une semaine en Corée du Sud, tout seul, en backpacking. Et j'étais assez impressionné par le pays, j'avais été impressionné par le Japon, j'étais impressionné par tout ce que j'ai vu. La Corée ne m'avait pas plus marqué que cela, d'un point de vue. J'avais adoré, mais il n'y avait pas un focus particulier
sur la Corée. C'était pas sorti du lot, ouais, d'accord. Exactement. On est en 2013 là donc, ok.
Là, non, même pas, on était en 2011 par là.
Ah, 2011, d'accord.
Ouais, c'était en 2011. Et donc après ce programme d'échange, je suis retourné finir mon master en France et j'ai commencé avec un job de consultant junior logistique à Paris. Donc j'ai reçu un petit cabinet. Ça marchait bien. Bon, là, j'ai pris mon petit CDI, commencé à faire ma petite carrière sympa. Sauf que je n'étais pas très content. C'était un petit cabinet avec beaucoup de consultants seniors qui étaient très experts, qui étaient très. Toujours. Alors aujourd'hui encore, je suis impressionné par leur expertise. Mais à l'époque, j'étais le seul jeune diplômé du cabinet et j'avais l'impression de ne pas donner beaucoup de valeur ajoutée au cabinet. Donc ça m'avait beaucoup frustré parce que je n'arrivais pas à voir la pièce du puzzle que j'apportais à l'entreprise. Je n'arrivais pas à voir la valeur.
Tu étais la nouvelle génération, non? Tu étais le futur.
C'est ça, voilà. Je voulais.
Tu aurais voulu être le présent. D'accord, ok.
En tout cas, je voulais au moins avoir un input dans les meetings. Je me retrouvais dans les meetings où j'écoutais, j'avais du mal à en placer une. Enfin, j'avais du mal finalement à trouver ma place quelque part. Donc ça m'avait un peu frustré, mais je ne regrette pas du tout cette expérience. Ça m'a beaucoup appris. Mais donc j'ai commencé à vouloir dire bon, pourquoi pas tenter une carrière un peu à l'international, en tout cas de mettre un pied à l'international. Et connaissant tous les petites étoiles dans les yeux que j'avais eues de l'Asie, j'ai commencé à regarder ce que je peux trouver en Asie. Et j'avais réussi à trouver un VIE en Corée du Sud. Alors, je ne visais pas spécialement la Corée du Sud, je visais le Japon, le Singapour, etc. Et là, Séoul a popé, et j'ai posé ma candidature et j'ai été retenu. J'ai sauté de joie, j'ai démissionné et j'ai pris mon petit billet d'avion pour partir en Corée du Sud.
Et chez qui le VIE ?
Et ben justement, je me suis retrouvé chez Bolloré Logistique, donc un gros groupe français qui à l'époque s'appelait SDV. Maintenant, ils ont remis un petit pinceau corporel dessus, donc c'est Bolloré Logistique aujourd'hui. Et je travaillais dans une toute nouvelle plateforme logistique qui était au sud de Séoul. Au sud de Séoul, à Osan, donc pour ceux qui connaissent, c'est là où il y avait une grande base militaire américaine, donc Osan. Et il y a également c'est aussi un centre logistique avec plein d'entrepôts. Et Bolloré avait justement récupéré une grande plateforme et on travaillait pour un client particulier qui était, alors je ne vais pas le citer, mais c'est une marque de café qui fait des capsules, assez célèbre en Europe.
Américain. Non, voilà. Suisse.
Et voilà, exactement.
C'est pas américain, c'est Georges Clooney, mais c'est Suisse. D'accord.
Et donc, voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans sur cette plateforme. Ça boomait. Voilà, c'était le café en Corée, c'est une culture. Hein, la culture du café, c'est assez surprenant pour un pays qui, d'origine, est très accepté. Mais voilà, le café se lançait. Et cette marque de café en particulier avait boomé entre 2012 et 2016, là où j'étais. Et c'est très bien marché, très bien passé. C'est vraiment... C'était un job un peu bac à sable pour moi parce que j'ai rejoint une équipe coréenne et j'avais vraiment la liberté de mouvement pour expérimenter plein de choses parce qu'on doublait un peu de business chaque année et ça augmentait tellement vite que j'avais un peu la liberté de mouvement de lancer plein d'idées, de lancer plein d'initiatives et ça m'a vraiment, pour le coup, j'avais vraiment une valeur ajoutée dans l'organisation. Là, je voyais
D'accord,
vraiment...
oui. Ce qui est paradoxal vraiment... parce que tu étais en VIE finalement à l'étranger, tu étais plus, tu avais plus de valeur ajoutée qu'en CDI dans ta boîte française finalement.
Et c'est marrant, mais c'est ouais. Exactement. Parce que bon, beaucoup d'opportunités à l'international, des jeunes diplômés, on leur donne de grandes responsabilités et dans beaucoup de groupes français, on leur donne parfois plus de responsabilités qu'un jeune cadre en France. Et on a également plus de... comment dire, de visibilité également. On a beaucoup, beaucoup de portes s'ouvrent à nous. Donc, se mettre en danger, se sauter un peu dans l'inconnu, ça, parfois, y a beaucoup de récompenses en termes de...
Ça paye. Faites un VIE.
Ouais, enfin, moi, je ne regrette pas en tout cas.
Non, ça a l'air effectivement. D'accord. Et donc, c'est un an, ça. C'est un contrat d'un an.
C'est un contrat d'un an, mais finalement, je suis arrivé en contrat local directement parce qu'à l'époque, en 2012, les VIE, ce n'était pas très bien compris avec l'immigration et ils avaient besoin de moi assez rapidement. Donc finalement, on a mis le VIE de côté et on a fait un contrat local. Donc j'étais en contrat coréen.
Ah, d'accord, donc tu étais en E7 tout de suite d'entrée.
Exactement, donc j'ai eu mon E7 et donc avec des conditions équivalentes à un VIE et très, très vite, c'est un peu… Quand j'ai fait mes preuves la première année, voilà… étoffé un peu le package.
Et comment ils peuvent faire un VIE en contrat de travail? C'est pas antinomique, ça? D'accord.
En fait, tout simplement que le VIE, c'est jamais fait, tout simplement. Le VIE, c'est jamais fait et j'ai signé un contrat E7 directement. Donc, ça a été fait comme ça. Et donc, justement, c'est là où qui était la supply chain manager de cette marque de café en Corée à l'époque? Et ben justement, c'était justement ma boss actuelle qui a repris.
D'accord, c'était elle. Donc tu restes combien de temps chez Bolloré?
Et ben j'ai fait 4 ans en Corée et au bout de 4 ans, j'ai commencé à travailler sur plusieurs entrepôts, donc pas seulement celui de San, mais je commençais à travailler sur 3 entrepôts au final. Donc c'est très intéressant et au bout de 4 ans ils m'ont proposé de partir soit à Shanghai soit en Australie et j'ai choisi de partir à Shanghai de 2012, fin 2012 à fin 2016, je suis resté en Corée chez Bolloré. Et je suis parti ensuite à Shanghai, chez Bolloré, toujours logistique, pour reprendre un poste similaire, mais avec un scope beaucoup plus grand.
Alors pourquoi
Et là,
Shanghai? Pourquoi Shanghai? Moi j'aurais pris l'Australie. Pourquoi Shanghai?
parce que là, je pense que j'ai toujours cette petite fibre asiatique. J'ai toujours aimé être dans un pays avec une forte identité culturelle, on va dire orientale, entre guillemets. Pour moi, l'Australie, c'était déjà avoir un pied un peu aux États-Unis. Et j'étais encore jeune. Et pour moi, la Chine me paraissait beaucoup plus attrayante. Je savais qu'il y avait le risque un peu, la Chine et la Chine, hein, c'est un peu le Far West parfois. Donc je savais que je m'engageais potentiellement dans des sentiers un peu plus mouvementés. Mais voilà, j'étais attiré par Shanghai.
D'accord.
C'était une.
Donc toujours chez Bolloré, toujours dans la logistique, mais une façon de faire évoluer un peu les équipes sur
Bah, sur
d'autres
un scope beaucoup
géographies.
plus grand. Là, en Corée, parce que la Corée reste la Corée, la Chine reste la Chine. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc oui, les équipes sont multipliées par 5, le business est multiplié par 10. Donc oui, c'est un autre ordre d'échelle, un autre ordre de
Ouais.
grandeur. Et par contre, voilà, moi j'ai pris un peu le train en route à Shanghai. Et je me suis retrouvé dans une position qui était assez délicate parce qu'on était dans une phase de transition. On commençait à prendre beaucoup de contrats et les équipes n'étaient pas du tout dimensionnées. Et moi, je me suis retrouvé sur le champ de bataille au milieu de tout ça.
Toujours sur les produits, sur les capsules de café ou
Non, pas que, non, il y a beaucoup de luxe. On travaillait avec certaines marques de cosmétiques françaises qu'on retrouve un peu dans les duty free. La majorité des marques de cosmétiques françaises voilà, sont opérées avec Bolloré en Chine. Il y avait des gros coins. Bolloré, logistique, on travaille avec beaucoup de luxe, en fait. Tout le luxe français, Bolloré Logistique a toujours été un partenaire un peu à privilégier. Donc les relations français à français, c'est toujours plus simple, notamment sur les marchés où on s'implante et il faut aller vite et on n'a pas toujours les bonnes connexions avec le local. Voilà, il y avait une carte à jouer là-dessus. Et au bout de 2 ans, donc, voilà, pour finir vite fait sur le chapitre Shanghai, bah, j'avais du mal un peu vraiment à rattraper la charge de travail commençait vraiment à être trop grande pour moi. Donc, il y a vraiment eu un moment donné où ça a commencé à craquer. J'ai réussi à survivre, on va dire, 2 ans. Mais au bout de 2 ans, voilà, ça commençait à être beaucoup trop pour moi.
Donc c'était pas la Chine, hein, c'était le travail en lui-même. L'environnement n'était pas un problème.
C'est difficile de juger parce que bon, voilà, j'ai vu la Chine qu'à travers mon scope. Moi, j'ai adoré Shanghai. Hein. Y vivre d'un point de vue personnel et professionnel, c'était génial. Après, le poste en lui-même, voilà, je pense qu'on était
Ouais.
dans une phase de transition où nos équipes étaient mal calibrées par rapport au contrat où on comprenait. Et voilà, moi, il y a eu des moments où j'ai travaillé pendant 2 mois et pendant ces 2 mois-là, c'était 7 jours sur 7, 10 heures par jour et j'étais lessivé, quoi, vraiment lessivé. Donc, il y avait même un impact physique. Je commençais à avoir des poches sous les yeux. Voilà. Donc, ça commençait vraiment à être compliqué, quoi. Et c'est aussi le fait que plus d'énergie on donnait au travail, j'arrivais pas à voir le bateau se stabiliser quelque part. Donc, c'était plus je donnais et je ne voyais pas la situation s'améliorer également. Donc, c'est
D'accord.
ça qui m'a fait un peu décider à me dire, bon, voilà, trop, c'est trop. Et donc, j'ai commencé doucement à mettre à jour, à regarder un peu quelles pourraient être les opportunités à venir. Et c'est bizarre, c'est un peu le destin qui l'a voulu, mais c'est à ce moment-là où bah, mon ancienne cliente, justement, ma manager actuelle, m'a recontacté sur LinkedIn pour me dire bah, Clément, est-ce que tu es toujours en Asie? Est-ce que tu serais intéressé pour une nouvelle opportunité? Je monte une équipe, bah, je cherche quelqu'un et je sais que voilà, tu avais un profil qui m'intéressait.
Ah d'accord, donc c'est elle qui est allée te chercher, même si tu avais quitté la Corée entre-temps, elle est allée te chercher en Chine au moment où toi tu envisageais de partir.
Exactement. Et bizarrement,
D'accord.
voilà, comment dire, je crois que aussi, elle avait du mal de son côté à trouver des profils. C'est aussi, voilà, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard dans l'entretien, mais je crois aussi qu'en Corée, c'est pas toujours facile de trouver des profils ingénierie international, un peu flexible, comment dire, des profils qui sont capables être un peu un couteau suisse quelque part, avoir à la fois une spécialité, avoir une expertise. Donc moi, en l'occurrence, tout mon master supply chain et mon expérience a toujours été axé supply chain, mais également être aussi capable d'avoir une flexibilité de touche à tout quelque part. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver en Corée. On trouve des experts, et encore, si on trouve sur l'éducation en Corée, c'est des grandes écoles qui sont de très bonne qualité. Mais bien souvent, les diplômés coréens ne sont pas recrutés pour leur spécialité. Ce qui fait quelque part qu'ils sont formés dans l'entreprise, mais ils ne sont pas préformés. Et trouver de l'expertise avancée en Corée, ce n'est pas toujours facile. Et encore moins pour des gens qui sont capables d'être un peu multitâches. Le multitâche en Corée, ça n'existe pas tellement. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours un des aspects de mes compétences qui a toujours été très valorisé en Corée. Quand j'étais à Bolloré Logistique, on m'avait fait un petit reward, c'était l'employé de l'année. La raison principale pour ça, c'est parce que je disais oui à tout.
Visiblement, tu es sorti de ta zone de confort quand tu as quitté un CDI pour partir en VIE. Ensuite, tu ne prends pas l'Australie parce qu'à la limite, ça serait trop facile. On pourrait presque le résumer comme ça. Ça serait trop retour facile à l'Occident, plutôt aller dans. Donc, c'est vrai que oui, effectivement, plus ça faisait déjà 6 ans du coup que tu étais en Asie. Donc, on peut supposer que tu vas être quelqu'un qui va rester et qui ne va pas vouloir partir tout de suite. D'accord. Quand elle te dit on va travailler dans les croquettes pour chiens, ça t'emballe ou au contraire, tu dis bah, j'aimais bien ce qu'on faisait chez Bolloré?
Alors, très honnêtement, moi, chez Bolloré, j'étais dans un univers fournisseur, donc B2B. Et Royal Canin, quelque part, techniquement, c'est du B2B encore, mais d'un point de vue macro, ça reste du B2C parce que nos clients sont de taille modeste, ne sont pas aussi gros que Royal Canin. Donc, j'avais vraiment envie de passer côté client. En fait. J'avais vraiment envie de passer dans le B2C. Donc, ça, c'était un aspect. Deuxième aspect, Royal Canin, j'avais des très bons échos en termes de qualité de travail et même le groupe Mars en lui-même, puisque Royal Canin fait partie du groupe Mars.
Oui, quand on rattache ça au groupe, effectivement. Oui.
Voilà. Le groupe Mars a été élu en 2020 meilleur cadre de travail en France et également à Hong Kong, en Corée, je ne sais pas lequel que c'est. Mais je sais que voilà, c'est très bonne condition de travail. Et donc, je parlais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Bolloré Shanghai, c'est qu'à ce moment-là, mon équilibre vie-travail était cassé. Oui. Je suis retourné quand je suis arrivé à Royal Canin. Très honnêtement, pendant les 6 premiers mois, je commençais à me tourner les pouces. Donc voilà, je disais à ma manager, n'hésite pas, donne-moi du travail parce que là, je m'ennuie un peu.
C'est quoi ce truc? On fait que 50 heures par semaine, c'est pas possible. J'ai besoin de plus.
Ça c'était marrant aussi. Alors, je ne sais pas si à un autre moment on va parler un peu des forces et des faiblesses des coworkers en Corée, mais je pense qu'une des faiblesses d'ailleurs, qui s'est retrouvée un peu dans les interviews précédentes, c'est que voilà, il n'y a pas toujours les Coréens peuvent passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur des tâches qui ne sont pas forcément majeures. Ils sont vraiment dédiés à leurs tâches, dédiés à leur travail. Ils ont envie de bien faire, ils le font bien. Mais ils peuvent passer beaucoup de temps sur des choses qui ne nécessitent pas beaucoup de temps.
Qui pourraient être faites plus rapidement, d'accord.
Exactement. Et c'est là où finalement où j'ai vu, je pense que mon manager et son équipe, sur certains aspects, pas tous, mais sur certains aspects, c'était un peu comme ça. Je crois qu'il y avait du continuous improvement, l'amélioration continue qui pouvait être faite sur pas mal de tâches.
D'accord. Mais donc tu dis, au bout de 6 mois, je commençais à m'ennuyer, mais donc maintenant, ça fait 2 ans et quelques, c'est ça?
Oui, alors évidemment, après, c'était le début, c'est là où on recalibrait, on repartageait un peu les tâches. Aujourd'hui, voilà, sur mon bureau, j'ai récupéré pas mal de projets.
Tu t'ennuies plus?
Je m'ennuie plus, effectivement.
D'accord. Et est-ce que tu regrettes ton expérience chinoise ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, la vie à Shanghai était bien, c'est juste que tu es tombé peut-être au mauvais moment?
Alors moi, non, je ne la regrette pas. Je ne la regrette pas parce que d'une part, c'était extrêmement formateur. Être dans une situation où on est débordé de travail et on n'arrive plus à suivre, je pense que c'est une situation qui nous apprend beaucoup de choses, en fait, voilà, qui nous remet un peu en perspective et qui nous apprend aussi à réagir dans des moments où ça va mal, quoi. Moi, il y a des moments où voilà, je me suis trouvé vraiment à à traîner des pieds pour aller au bureau et plus que ça, à être complètement déprimé. Comment on travaille quand on est déprimé? Bah voilà, ça a été formateur pour moi. Et c'était d'autant plus important parce que quand je suis parti de la Corée, je suis parti un peu la fleur au fusil et en étant presque surconfiant de moi-même. C'est-à-dire que ces quatre premières années en Corée, elles m'ont tellement mis en confiance que j'avais l'impression que je pouvais tout faire. Donc, je me surévaluais. Et j'avais besoin, dans ma carrière, je pense que j'avais besoin de me prendre ce poteau dans la figure.
Une claque, oui, d'accord.
Une claque pour dire, attends, tu calmes-toi un peu, t'es pas le maître du monde, voilà, tu peux pas tout gérer.
D'accord. Et si tu compares donc justement effectivement le travail en Corée versus le travail en Chine, quelles sont tes impressions?
Alors, sur ma perspective, hein, forcément, je ne peux pas juger sur tout. Mais sur ce que j'ai vu, de manière générale, je dirais que les Coréens, c'est des gens à qui on peut faire confiance, entre guillemets. On peut leur donner quelque chose à faire. Peut-être qu'ils le feront mal ou peut-être qu'ils le feront bien, mais en tout cas, ils vont le faire. Ils vont mettre beaucoup d'efforts à le faire. Je m'engage à faire cette tâche. On peut leur faire confiance. Alors je déplace vite fait l'ordinateur parce que je dois recharger. Et donc ça c'est quand même une qualité qui ne se retrouve pas partout. Pouvoir faire confiance à nos collègues et être sûr au moins qu'ils vont mettre de l'énergie sur les tâches, c'est quand même un sacré confort. On ne l'a pas partout et sans avoir toujours à négocier, toujours à essayer. S'il te plaît, fais-le, t'es sûr que tu vas le faire, tout ça. Pour moi, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez les Coréens. Après, effectivement, au niveau productivité, quand ça revient un peu à la discussion qu'on a tout à l'heure, c'est pas toujours à niveau. Et si je compare ça par rapport à Shanghai, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de Chinois, en fait, ont la sécurité de l'emploi. Il n'y a pas beaucoup de chômage en Chine. Et il n'y a pas la peur de la démission. Et il n'y a pas la peur de la démission au mauvais moment. C'est-à-dire, s'ils veulent partir, ils partiront sans forcément faire attention à l'éthique, savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je ne mets pas mon équipe en danger en partant maintenant.
Oui, plus que la sécurité de l'emploi, c'est le plein emploi. Parce que par contre, si tu veux les virer, si un patron veut les virer, il peut le faire aussi. Mais c'est plutôt que s'ils veulent partir, effectivement, ils savent qu'ils retrouveront un job de toute façon. Ouais, c'est ça.
Voilà. D'accord. Donc, c'est un petit côté un peu individualistique de la Chine. Et puis voilà, ils n'hésiteront pas aussi à partir pour le plus offrant. Quoique, effectivement, il y a quand même aussi la fidélité au chef. Alors ça, c'est quelque chose d'assez... Mais une fois qu'ils ont identifié un leader, ils sont capables aussi en Chine, de suivre le leader, quoi qu'il en coûte. Hein. Et pas forcément, même en mettant de côté le salaire, si le gap salarial n'est pas trop élevé. Donc oui, il y a quand même la reconnaissance du chef en Chine. Ça, c'est impressionnant, ça m'avait impressionné. Et en Corée, en contrepartie, en Corée, il y a forcément l'impact du groupe. Il y a la vie du groupe, il y a le wishi qu'on fait tout ensemble, on mange ensemble, on dîne ensemble, on célèbre ensemble. Quand ça va mal ensemble. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être appréciable, dépendant de chacun. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, de manière générale, moi, je me suis retrouvé sur pas mal de valeurs de travail en Corée, même si voilà, tout est gris, rien n'est blanc, rien n'est noir. Mais oui, je me suis beaucoup plus senti à mon aise en Corée.
D'accord. Donc là, maintenant, tu es chez Royal Canin. Ça commence à faire un petit moment. Tout va bien. Exactement. Quels sont les projets professionnels?
Les projets, ça aussi, la force de Mars, c'est que Mars, ce n'est pas que Royal Canin. Et c'est aussi un groupe qui donne beaucoup d'opportunités. Et donc, très régulièrement, ma manager fait un point avec moi. Dit, voilà, où est-ce que tu te vois dans 2 ans, 3 ans? Donc, il y a toujours une volonté d'ouvrir les portes pour essayer de te réaiguiller sur de nouveaux challenges, de nouvelles marques, peut-être quitter Royal Canin pour en prendre un nouveau segment chez Mars. Mais non, je ne me vois pas forcément quitter Mars ni Royal Canin dans l'immédiat parce que bon, ça fait que 2 ans, entre guillemets, que je suis là et j'ai encore des choses à faire.
D'accord.
Si, parce que voilà, c'est une marque française et j'aime bien aussi ce petit côté management français aussi avec une touche américaine et une touche asiatique. C'est très multiculturel et je trouve ça très confortable et passionnant.
D'accord. Et vous parlez en anglais entre vous, j'imagine?
On parle en anglais avec un peu de français. Forcément, les Coréens parlent en coréen entre eux, les Français parlent français entre eux, les Australiens en anglais. Donc voilà. Mais oui, effectivement, langue de travail, c'est ça l'anglais.
D'accord. Et ton coréen, alors, il est comment?
Mon coréen, ça c'est la partie la moins drôle de l'interview, mais
Oh, t'inquiète pas, je vais pas mieux.
il est pas au beau fixe. Alors, j'ai toujours, ça je crois que c'était une de mes grandes erreurs. Quand je suis arrivé en VIE pour la première fois en Corée, je ne me suis jamais vu réellement sur le long terme en Corée. Je ne pensais pas que j'allais rester aussi longtemps. Je me voyais à 2 ans, 3 ans. Donc j'avais commencé à apprendre le coréen par curiosité, mais sans réellement le mettre dans une grande priorité. Et au final, voilà, au fil de l'eau, je me suis rendu compte que je n'en avais pas réellement besoin. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en Corée, finalement, et notamment à Séoul, on n'a pas vraiment besoin de parler coréen. On a besoin, à certains moments, quand on va commander, voilà, un café ou quand on parle avec acheter une boisson ou autre, mais, ou peut-être sur certains aspects administratifs. Mais dans 95% des cas, dans notre cercle social et cercle professionnel, c'est l'anglais, c'est le français, c'est.
Ouais, je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'est que tu as toujours travaillé pour des boîtes étrangères, pour jusqu'à maintenant. Je pense que c'est moins vrai si tu travailles dans des boîtes coréennes, type Samsung, LG, et encore moins vrai si c'est des petites boîtes coréennes. Et plus tu descends, moins ça va être vrai. Et là où je te rejoins pas, mais ça, c'est mon expérience personnelle sur le fait de parler, oui, mais lire le coréen, ça devient quasiment indispensable, quoi. Moi, je souffre
Oui, bah oui.
beaucoup de ne pas lire le coréen, quoi. Et bon, si tu lis, tu parles, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu lié.
Alors ça va, après bon, oui, c'est vrai, mais ce qui est bien avec l'alphabet coréen, c'est qu'il s'apprend en une semaine. Donc on peut le lire sans le comprendre, mais au moins on peut reconnaître pas mal de choses. Donc moi, voilà, mon niveau est voilà, beginner, je suis vraiment débutant, mais ça n'empêche que voilà, quand je passe sur l'internet coréen, bon, j'arrive à reconnaître pas mal de choses sans parler coréen. J'arrive à naviguer sur le site. Effectivement, après, dès qu'on commence à lire un règlement, là, OK, là, je drapeau blanc.
D'accord. Non, je parle même des apps. C'est vrai que bah, si tu veux utiliser Nevermaps, il vaut mieux taper en coréen. Si ta banque, il vaut mieux être capable de lire le coréen. Enfin, il y a beaucoup d'apps où je trouve qu'on est beaucoup plus handicapé que dans d'autres pays
Oui, c'est
d'Asie.
vrai. D'ailleurs,
Voilà,
oui,
par rapport à
la
ça.
Corée, d'ailleurs, est un pays d'apps. C'est incroyable. Ils ont tout se fait via application. C'est affolant.
Voilà, ouais. Mais effectivement, je pense que le fait aussi que tu as travaillé pour ces boîtes internationales fait que bah, tu as pas besoin du coréen au jour le jour, quoi. Et puis il y a un niveau aussi d'encadrement qui fait que tu parles finalement aux
Ah oui.
dirigeants et pas et
Oui,
pas
effectivement.
ouais.
Tout
D'accord.
ce que j'ai dit là ne représente mon expérience, effectivement.
Ouais. Non, non, mais c'est parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte, quoi. On se rend compte qu'il y a une catégorie d'expats et de gens qui travaillent pour des boîtes internationales et qui souvent parlent pas forcément coréen, même s'ils sont là depuis des années. Et puis il y a ceux qui viennent et qui, tu sais, qui sont en contrat local ou qui travaillent pour des startups, etc. Et ceux-là, ils ont quand même bien besoin de se mettre au coréen rapidement, quoi. Enfin, des interviews que j'ai pu faire, je vois vraiment la différence entre ceux qui travaillent dans les grosses boîtes et qui, bon, ben, ont pas forcément besoin du coréen et continuent à bouger parce que voilà, ils ont cette expérience internationale. Et puis ceux qui sont en contrat local, qui cherchent du travail, qui travaillent pour des petites structures, etc. Et qui, eux, ont intérêt à très rapidement progresser en coréen parce que ça va faire partie des critères. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, moi, effectivement,
Effectivement.
mon côté. D'accord, très bien. Tu m'avais parlé aussi, avant qu'on commence l'enregistrement, d'un voyage en Corée du Nord, mais on a dû louper ce passage-là.
Oui, alors parce que oui, alors je ne parle pas coréen, par contre je m'intéresse énormément à la culture coréenne. J'adore, je voyage beaucoup en Corée, je m'intéresse beaucoup à leur gastronomie, leur culture, leur héritage, l'histoire. Et j'ai toujours eu bon, j'adore l'histoire et j'ai toujours eu cette fascination également pour la Corée du Nord parce que voilà, c'est toujours une anecdote géopolitique. Et en 2013, oui, j'avais eu l'occasion de pouvoir rejoindre un voyage d'une semaine en Corée du Nord. Et je pensais que je m'attendais à ce que ce soit un voyage qui coûte les yeux de la tête, mais en fait, non, c'était quelque chose qui ne coûtait pas très cher. Ça coûtait l'équivalent de 1600 euros, je crois, pour une semaine, tout compris en Corée du Nord.
Mais excuse-moi, tu partais d'où?
Je partais de Pékin, il fallait passer par la Chine, effectivement.
Mais
C'était
tu étais
départ.
c'est 2013 où tu étais basé déjà à Séoul, c'est
C'était en
ça?
Corée du Sud. Donc j'ai dû
Ouais.
prendre un avion pour aller à Pékin. Et de Pékin, j'ai pris un avion pour aller à Pyongyang. On a utilisé Air Koryo, qui est la compagnie nationale nord-coréenne.
Ouais.
est retourné par train. Et on a fait le retour par train de Pyongyang à Pékin et on avait été jusqu'à la DMZ, donc jusqu'à donc à Kaesong, la ville, la seconde ville de Corée, et Panmunjom, mais côté nord-coréen. C'est fameuse, cette grande frontière avec ces maisons bleues où Donald Trump et Kim Jong-un se sont serrés la main symboliquement. C'est une zone qu'on peut visiter côté nord et côté sud en temps normal, en temps où on n'a pas de tension géopolitique.
Oui, et toi, tu l'as fait côté nord, donc pas côté sud.
Je l'ai fait côté sud et je l'ai fait côté nord. Ce qui est marrant, c'est que voilà, quand on fait face à cette ligne, on se dit, bah, voilà, si on veut traverser cette ligne, bah, il faut passer par Pékin. C'est assez curieux. Mais oui, c'est toujours un peu particulier comme voyage, mais moi, ça a été un de mes voyages les plus fascinants que j'ai fait en Asie, de toute ma vie d'ailleurs. C'est un voyage, je sais pas, dans le temps, mais aussi dans l'espace-temps, parce qu'on sait pas, on est un peu coupé du monde, on n'a pas Internet, on ne sait pas ce qui se passe. Et en même temps aussi, quand on dit on voyage en Corée du Nord, c'est toujours un peu particulier parce que tout ce qu'on voit, forcément, c'est du filtre. Tout ce qu'on voit, c'est filtré par les guides. Donc, on va là où on est autorisé à aller. Oui. Les personnes qui nous parlent, c'est des personnes qui sont triées, qui sont préparées. Donc, finalement, c'est plus une grande pièce de théâtre, plus une grande mise en scène, plutôt qu'un vrai voyage où on va à l'encontre des populations locales.
Est-ce qu'on est quand même lâché dans la ville, mais est-ce qu'on se retrouve dans un supermarché, par exemple, avec des gens autour de soi ou dans un centre-ville avec des restaurants et des gens qui se baladent toujours, ou c'est vraiment toujours en
minibus? On est en groupe d'une quinzaine de personnes et on a été dans un supermarché, on a été dans le métro de Pyongyang, on a été dans les rues de Pyongyang, on a été dans différentes petites échoppes. Même dans les hôtels, on peut voir aussi... c'est le staff, mais voilà, on n'est jamais admis à parler avec les Nord-Coréens. De toute façon, voilà, les Nord-Coréens d'eux-mêmes évitent le contact avec nous. Et c'est toujours un peu curieux parce que on voit la fascination des enfants pour ces étrangers venus d'ailleurs et les parents qui les poussent un peu, regarde ailleurs, ne regardez pas, attention. Mais c'est assez curieux parce qu'on peut quand même parler avec les guides. Ça vaut ce que ça vaut, mais on avait des guides pour lesquels c'est la première fois pour eux qu'ils accompagnaient des visiteurs étrangers, et donc il y avait une certaine fascination, je pense, réciproque, même si forcément il y avait le filtre du langage. Et je me souviens très bien de situations assez cocasses où on s'est retrouvé dans soi-disant la demeure natale de Kim Il-sung, donc il est qui mène une petite ferme en banlieue de Pyongyang qui est complètement factice, en fait, tout a été rénové, la ferme est parfaitement moderne. Et quand on visite ça, forcément, il y a un moment un peu marrant, parce que tout le monde sait ce qui se passe. Je pense que les guides sont parfaitement... j'avais l'impression que les guides étaient parfaitement conscients que cette ferme était factice. Et ils réalisaient également qu'on n'était pas convaincus par la mise en scène. Et il y avait un moment où tout le monde jouait le jeu. Tout le monde prétendait écouter le guide et en faisant semblant de boire les paroles du guide, alors que chacun savait ce qui se passait. Donc le guide savait que c'était faux, nous on savait que le guide savait, qu'on savait, etc. Donc tout le monde jouait un rôle dans une certaine pièce de théâtre. J'ai l'impression que c'était assez curieux.
D'accord, mais ça t'a quand même permis de te faire ton opinion sur la Corée du Nord. Tu considères que tu as quand même vu assez du pays pour te faire ta propre opinion ou pas?
Non, je peux pas me permettre de dire ça parce qu'effectivement, encore une fois, ce que j'ai vu a été présenté par la Corée, par les guides et par le régime. Donc non, je peux pas dire connaître la Corée du Nord. Par contre, oui, j'ai assisté à des conférences avec des réfugiés nord-coréens à Séoul. J'ai beaucoup lu sur le sujet. Maintenant, ça fait pas du tout moi un expert, loin de là. Mais oui, je pense vraiment que c'était ce que j'ai vu en tout cas pendant ce voyage. C'était fascinant, on a vu les mass games, donc le stade olympique, où on avait ces milliers de figurants qui tenaient des panneaux et qui faisaient des fresques immenses avec un show totalement incroyable. On a vu un retour de parades militaires qui avait, on aurait dit, un défilé militaire de la guerre froide, avec des vieux camions, des vieux uniformes, des vieilles... Enfin, voilà, c'était très, très anecdotique tout ça. Je reste tout de même très impressionné par ce que j'ai vu et je ne regrette pas du tout. Pour moi, ça reste un des meilleurs voyages que j'ai fait. malgré le fait que effectivement ça reste. Ouais.
Donc il faut le faire quoi quand même. Toi tu le conseilles moi, quand même comme.
Moi je le recommande. Je le recommande. Ouais.
D'accord. Tu parlais aussi d'autres voyages que tu as pu faire en Corée du Sud cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des destinations oui. en particulier que toi tu as apprécié et qui sont peut-être moins connues que Jeju?
Exactement. Bah, écoute, il y a certains. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le cliché, vous dire bon, visiter le palais Gyeongbokgung, ce genre de choses. Je voulais parler de peut-être certains petits endroits de la Corée qui sont beaucoup moins connus, qui en tout cas, moi, m'ont beaucoup marqué. Et que, bizarrement, même les Coréens eux-mêmes parfois ne connaissent pas. Alors forcément, il y a les Temple Stay, donc je pense que beaucoup de Français qui ont voyagé en Corée les ont fait, mais je voulais en parler un en particulier, c'est le temple de Bojupsa, qui est dans un parc national au milieu de la Corée. Et Bojupsa, il est un peu spécial parce que, bon, de un, il a l'UNESCO, et contrairement aux temples, la plupart des temples coréens, il y a une pagode sur plusieurs étages, une pagode carrée, qui est assez unique en Corée, on voit ça nulle part en Corée. Et elle est très vieille, elle a plus de, je crois qu'elle a plus de 800 ans. Donc c'est vraiment un des rares bâtiments qui a traversé les guerres. Et faire un temple stay là-bas, c'est assez curieux parce qu'on est vraiment au milieu du parc naturel. C'est vraiment un temple en activité avec beaucoup de moines. Donc si on veut s'immerger un peu dans cette culture et avoir une expérience un peu coupée de Séoul et voir un peu à quoi ressemble la vie d'un moine, en faisant la cérémonie du thé et discuter un peu avec eux. Bon, moi, je recommande vraiment ce temple-là, Bojupsa, qui est à côté de, pas loin de Daejeon, et qui est fascinant, qui est vraiment coupé du monde.
D'accord.
Et qui est très...
Je ne connais pas, moi, les temple stay, moi, je découvre encore. C'est-à-dire qu'on va vraiment dormir dans le temple ?
C'est ça, en fait, généralement. On passe une nuit dans le temple, donc quand on arrive, on revêt un peu, pas l'uniforme d'un moine, mais des vêtements du monastère. Et pendant l'espace de 24 heures, on va passer une nuit avec le temple, on va manger végétarien, il y aura pas, voilà, c'est pas festif du tout, c'est plus un échange avec les moines, comprendre un peu leur façon de penser et voir un peu vivre ma vie pendant une journée, les suivre dans les différentes cérémonies, les différentes étapes de la journée. C'est assez intéressant.
Ah oui, d'accord, ah oui, non, je savais pas. Pas de téléphone mobile, j'imagine.
Oh, après, voilà, ils sont pas. C'est pas des fanatiques, donc on a le droit de prendre des photos, dire de la téléphone, etc., pour prendre des photos, etc. Par contre, effectivement, il y a une certaine étiquette à respecter.
Ouais.
Mais ouais, enfin, pour le peu, si vous avez si les Français ont une certaine curiosité pour la vie dans un temple, c'est vraiment une expérience à faire. Mais évitez Séoul parce qu'effectivement, c'est toujours prendre un bus et aller partir loin au milieu de la Corée, ça je le recommande vivement.
D'accord, très bien. Donc oui, donc a priori, toi, tu es là pour rester. Et justement, qu'est-ce qui te plaît beaucoup en Corée et qui te manquerait si tu devais quitter le pays?
Alors, je pense que c'est beaucoup de choses. Tout simplement, la simplicité de la vie, la flexibilité, c'est un pays qui est très facile à vivre au final. Les transports sont très bien organisés, les infrastructures sont modernes. Tout est facile, voilà, on a n'importe quoi, on peut se le faire livrer à domicile en 24 heures, on a besoin de... Enfin, voilà, c'est les convenience stores, l'accès aux produits de première nécessité, enfin, même l'administration, tout se fait simplement, tout se fait facilement, tout est à portée de main. Et donc ça, c'est simple, c'est propre, c'est efficace. Donc ça, je l'ai rarement vu. Même en Chine, qui sont pourtant un des pionniers sur tout ce qui est QR code, technologie, e-commerce, etc. Je pense que la Corée du Sud reste globalement plus harmonieux et mieux organisé à ce niveau-là. Donc ouais, je pense que c'est un pays qui est très, très simple à vivre. Et donc oui, si un jour je devais revenir en France, typiquement, je pense que cette simplicité, cette facilité de l'administration, etc., me manquerait énormément, je pense.
D'accord. À l'inverse, qu'est-ce qui t'agace profondément et te donne parfois envie de quitter le pays?
Alors, je pense que voilà, effectivement, je pense que c'est plus l'interaction avec la philosophie de vie, je dirais. Pour faire simplement, la philosophie de vie des Coréennes est à l'antipode, je pense, de la philosophie de vie française, dans le sens où forcément, c'est un peu cliché ce que je vais dire, donc ça ne représente pas tous les Coréens, mais beaucoup de Coréens donnent beaucoup d'apparence au paraître, donc le paraître, le statut social, les objectifs de vie, entre guillemets, entre Français et Coréens ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça peut être compliqué. Il y a une force aussi, un manque d'indépendance de la pensée, en fait, voilà, où on est bien souvent, on suit le groupe, on suit un peu ce que pense le groupe, on a du mal à formuler notre propre opinion. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile, en fait, dans les discussions, quand on parle vraiment profondément avec les Coréens. Très souvent, s'il n'a pas voyagé, s'il n'a pas eu d'autres... il n'a pas, voilà, il n'a pas eu d'autres overview de ce qui se fait ailleurs. Parler de choses profondes, c'est assez compliqué, je trouve. Et donc, ça c'est compliqué. Et sur le long terme, je pense que c'est aussi construire une famille, c'est toujours compliqué aussi. Tout ce qui est parti, l'éducation, avoir des enfants, je pense aussi que c'est très compliqué en Corée. Quand je discute également avec... mes amis ici qui sont dans cette situation, qui sont mariés, qui commencent à avoir leur enfant, la question de l'éducation, ça a toujours été une grosse, grosse épine dans le pied.
Quelle est la question ?
La question, c'est le système d'éducation en Corée est assez, comment dire, c'est assez pressant, c'est assez formateur, mais formateur au sens propre du sens, on va dire, voilà, c'est... Rentre dans le carré et c'est un cercle, on va appuyer très fort pour qu'il devienne un carré.
C'est un moule, oui, c'est une forme qui est faite par un moule. D'accord.
Et oui, c'est un moule, et voilà, c'est toujours la pression aussi de l'université, la pression de réussir, les agones, apprendre un instrument. Enfin, voilà, il y a aussi c'est un peu néfaste dans le sens où, comme tous les classmates, comme tous les parents d'élèves poussent leur enfant à faire la même chose, forcément, on est entraîné dans ce courant-là et on n'a pas tellement le luxe de dire bah non, moi je ne le fais pas parce que je veux que mon enfant ait une éducation différente, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Très bien. Dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu arrives en Corée parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir à l'avance?
Alors, ça dépend qui, mais si je devais me parler à moi-même il y a 10 ans, je pense pas. Forcément, j'avais pas. Moi, en tant que tel, je n'avais pas cette vision que j'allais rester aussi longtemps en Corée. Je m'aurais dit, apprends le coréen quand même. C'est vrai que pas forcément que c'était dramatiquement utile, mais surtout parce que ça me permet d'avoir peut-être une compréhension plus profonde aussi du pays, simplement. Aussi. Je pense que pour les interactions avec les Coréens, ça reste tout de même un gros plus. Et également, de pas, ça, c'est peut-être plus généralement à ceux qui nous écoutent et qui veulent venir en Corée, un gros conseil que je peux dire, c'est de ne pas focaliser seulement à Séoul, être prêt à prendre des opportunités en dehors de Séoul, en campagne, sur des jobs qui ne sont pas forcément aussi attrayants. Voilà, tu ne vas pas être dans le top office de Gangnam, dernier étage de la tour, très bien payé au milieu de Séoul, mais être prêt à prendre des positions, voilà, sur ce qui est un peu en banlieue, ce qui n'est pas aussi attrayant, mais qui va être très formateur et qui va ouvrir en fait plein de portes. Ne pas oublier, voilà, ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis.
Se mettre en danger un peu.
Se mettre en danger, définitivement. Prendre les danger.
Ok. Ouais. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Clément pour ton temps. Pour terminer, est-ce que tu as une annonce ou quelque chose que tu veux partager avec les gens qui nous écoutent?
Une annonce, non, je n'ai pas d'annonce particulière, effectivement, parce que j'ai l'impression que je suis encore sur cette nouvelle étape à mars pour être canin, donc je n'ai pas encore lancé mes dés sur le prochain move.
Tu n'as pas de chaîne YouTube, tu n'as pas de page non, Facebook, de blog où tu racontes ta vie, je ne sais pas, il y a toujours...
En général, c'est ça. Je prends beaucoup de photos de la Corée, donc si vous voulez me voir sur Instagram, je prends de très belles photos, enfin, j'imagine, vous jugerez vous-même. Donc, vous pouvez voir sur Napo0124.
Tu vois, j'allais y arriver. Je savais qu'il y avait bien un réseau social quelque part. Donc, c'est Instagram. Ah, c'est Instagram. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je mettrai le lien en description de l'épisode. Ouais. Ça intéresse. Tu vois, je savais bien qu'il y avait quelque chose. On a tous un réseau social à partager. Bon, écoute, ouais. En tout cas, c'était très intéressant. Merci encore à toi, Clément. Et puis, à très bientôt.
Merci beaucoup, Bart. Et encore une fois, félicitations pour cette initiative. Moi, je la trouve très, très intéressante. On entend beaucoup, beaucoup d'insights sur la Corée. J'adore.
Merci. Salut.
Bye-bye, Bart.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt !